VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, heureux de vous retrouver en ce vendredi 18 septembre 2015. Jacques Aristide et Anne Albertson avec vous. L'actualité dominée évidemment, Anne, par le coup d'État au Burkina Faso.
Oui, et le Conseil de sécurité de l'ONU agite la menace de sanctions contre les auteurs du putsch, alors que le nouvel homme fort de Ouagadougou, le général Diendéré, promet que des élections seront organisées rapidement.
Nous allons discuter de cette question avec les acteurs intéressés.
RD Congo, verdict allégé en appel pour deux accusés dans l'affaire Chebeya. Les parties civiles envisagent de se pourvoir en cassation.
Accusé de tentative de corruption, le numéro 2 de la FIFA, Jérôme Valque, est démis de ses fonctions.
Dans la partie magazine, les Camerounais font la queue pour obtenir la nouvelle carte nationale d'identité à cause de Boko Haram.
C'est depuis 4 que je suis ici là. Depuis 4, j'étais même là dehors. Pour entrer, c'est les problèmes.
Autant de titres à développer avec une bonne tranche consacrée à la crise burkinabé.
Le représentant spécial de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest a rencontré hier le nouvel homme fort du Burkina Faso, le général Gilbert Diendéré. Mohamed Ibn Chambas l'a sommé de libérer les responsables détenus et de reprendre la transition politique, selon des diplomates que cite l'AFP. Des détails avec Henri Francisque.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, devait téléphoner au chef de l'État sénégalais, Macky Sall, président en exercice de la CEDEAO. Monsieur Sall doit se rendre aujourd'hui au Burkina Faso, selon l'AFP. Le Conseil de sécurité de l'ONU, pour sa part, a agité hier soir la menace de sanctions contre les putschistes s'ils ne rendent pas le pouvoir. Le Conseil a réitéré sa demande d'une libération immédiate du président Michel Kafando et de son premier ministre Isaac Zida, réclamant que le calendrier de la transition soit respecté, en particulier la tenue d'élections le 11 octobre. Washington a menacé de réévaluer l'aide américaine au Burkina Faso si une résolution pacifique de la crise n'était pas trouvée. Susan Rice, conseillère à la sécurité nationale du président Barack Obama, a qualifié le coup d'État de « recul démocratique ». À Ouagadougou, les militaires ont posté dans la nuit de jeudi à vendredi leurs véhicules blindés devant le palais présidentiel. Ils avaient auparavant tiré pour disperser les manifestants hostiles au coup d'État. Au moins une personne a été tuée par balle et une soixantaine blessée depuis mercredi, selon un bilan du principal hôpital de la capitale. Les putschistes ont décrété un couvre-feu nocturne et la fermeture des frontières terrestres et aériennes.
Et qu'a à dire l'homme qui a pris la tête des putschistes, le général Gilbert Diendéré, a accordé un entretien à notre collègue Idriss Fall. Il a promis d'organiser le plus rapidement possible les élections prévues à l'origine en octobre. Le général Diendéré.
Au niveau de l'armée, depuis un certain temps, il y a un acharnement qui est mené contre un des corps du régiment de sécurité présidentielle et là a été vraiment instrumentalisé pour créer une crise permanente au sein des forces de défense et de sécurité. Ce régiment a eu beaucoup d'accusations et cela a créé quand même un sentiment de frustration au niveau des hommes. Mais il y a aussi une loi qui portait sur les personnels des forces armées national qui n'a pas été du tout accepté par le personnel militaire.
Mais est-ce à dire que, en fait, vous avez pris le pouvoir pour contrer les agissements de votre ancien adjoint, qui est l'actuel Premier ministre, M. Zida?
Non, pas pour contrer, oui. Bon, c'est pas pour contrer ses actions, mais c'est pour, quelquefois, dénoncer certaines actions qui ont été dénoncées à plusieurs reprises. Nous avons publiquement fait des remarques par rapport à certaines actions, mais on a eu l'impression que l'on ne prenait pas en compte les avis des militaires et cela a créé vraiment d'énormes frustrations. Sur le plan politique aussi, l'adoption de la loi sur le code électoral qui exclut un certain nombre de personnes lors des élections démocratiques qui arrivent.
Avec le conseil que vous avez mis en place, est-ce que de telles élections sont possibles le 11 octobre?
Nous allons discuter de cette question avec les acteurs intéressés pour voir comment nous pouvons faire ces élections-là le plus rapidement possible.
Vous donnez combien de temps pour la durée de la transition?
Non, nous ne donnons pas une période. Nous allons discuter de cela avec les acteurs.
Mais maintenant, il y a beaucoup d'acteurs qui sont dans la rue, qui lancent un appel à la grève générale. La société civile veut marcher dans la rue pour que vous remettiez le pouvoir et libérer Michel Kafando et Zida. vous allez répondre comment?
Nous allons discuter. C'est vrai, il y en a qui sont dans la rue, mais il y a quand même certains représentants avec lesquels nous pouvons discuter.
Et quand est-ce que vous commencez ces consultations?
Nous les commençons immédiatement.
Et avec toute la classe politique?
Oui, avec toute la classe politique. Nous allons discuter avec la classe politique. Nous allons discuter avec la communauté internationale.
Mais où sont Michel Kafando et le Premier ministre Isaac Zida?
Non, ils sont en lieu sûr, ils sont en sécurité, ils sont en bonne santé. Il n'y a aucun problème pour ceux qui les concernent.
Vous ne savez pas quand est-ce qu'ils seront relâchés alors?
Nous préférons ne pas donner le délai, mais ça ne saurait tarder.
Est-ce que vous avez eu des contacts avec Blaise Compaoré depuis qu'il est parti?
Depuis qu'il est parti, oui, nous avons eu des contacts, mais pour ces derniers jours, nous n'avons pas eu de contact avec lui.
Il n'est pas question d'envisager un retour quelconque de l'ancien président alors?
Non, nous n'avons pas évoqué cette question.
Le général Gilbert Diendéré, proclamé hier président du Conseil national pour la démocratie, la junte militaire qui a renversé les autorités de transition au Burkina Faso.
Et certains partis politiques burkinabés condamnent le coup d'État. Réaction ce matin du président de l'Union pour la Renaissance, mouvement sankariste, Maître Beniwende Stanislas Sankara.
C'est un coup de poignard dans la démocratie et c'est l'espoir des Africains et en particulier l'espoir du peuple burkinabé qui a été stoppé par les éléments militaires du régiment de sécurité présidentielle. Pour nous, cette révolution qui s'était amorcée par l'insurrection populaire devrait augurer un état de droit véritablement démocratique avec des élections justes, équitables. Malheureusement, il faut encore compter avec ceux qui utilisent les armes que le peuple paie avec ses impôts, qui utilisent la force parce qu'ils veulent purement et simplement protéger leurs propres intérêts.
Quand Gilbert Diendéré parle de dialogue immédiat avec tous les acteurs politiques, est-ce que c'est une offre de dialogue que vous acceptez?
Malheureusement, je suis perdu quand Gilbert Diendéré dit cela. Il dit qu'il va amorcer un dialogue. Nous allons savoir si ce dialogue va se faire avec le fusil sur la tempe ou bien est-ce que ce dialogue va se faire dans la liberté, dans la légalité et dans le respect des valeurs qui incarnent les Burkinabés. En entendant, nous comptons des mots. En entendant, le même Gilbert Diendéré et ses hommes sont en train de tirer sur la jeunesse. Comment on peut faire un dialogue avec les représentants du peuple si vous-même vous êtes en train de tuer les éléments de ce peuple? Ce sont des interrogations. Nous attendons de voir.
Maître Beniwende Stanislas Sankara, candidat à la présidentielle, joint à Ouagadougou par Nicolas Pinault.
Cette crise n'est pas une surprise selon l'International Crisis Group. En juin dernier, le think tank se préoccupait de la situation politique après l'exclusion des élections par le gouvernement de transition des proches de l'ancien régime. Claire Morin-Gibourg a joint la chercheure Cynthia O'Hayon.
C'est une conjonction de facteurs. Il y a eu beaucoup de frustration qui s'est accumulée dans l'armée et parmi les représentants de l'ancienne majorité. Et il y a une collusion qui s'est formée en fait entre ces deux forces. On a exclu des élections, des gens qui n'ont jamais accepté qu'ils ont perdu le pouvoir, des gens qui ont dirigé le pays pendant 27 ans, forcément les empêcher de reprendre le pouvoir par les urnes, aller les pousser vers des stratégies de contestation, de déstabilisation, de sabotage. On l'avait dit clairement en fait dans nos rapports, ce coup de force ne fait que polariser davantage les positions et donc on voit mal comment on pourrait organiser une élection dans ces conditions. Donc il va falloir retourner à la table de la négociation, mais ça va être certainement très laborieux.
Les acteurs de la société civile vont-ils pouvoir être assez forts pour vous, pour quelque part faire contrepoids?
C'est une bonne question. En tout cas, bon, au Burkina, on a une société civile qui est quand même mieux organisée, plus puissante que dans un certain nombre de pays dans la région. On a vu quand même le rôle qu'elle a joué dans l'insurrection populaire qui a fait tomber Blaise Compaoré et qu'elle a joué ensuite pendant la transition. Et là, on voit que bon, les leaders de la société civile sont en train d'appeler à la mobilisation. Maintenant, est-ce que les gens vont suffisamment se mobiliser et sortir dans la rue? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on n'a pas eu une mobilisation populaire qui était à la hauteur des attentes ou en tout cas qui était capable de faire reculer les militaires.
Cynthia O'Hayon de l'International Crisis Group.
Le ballet citoyen, quant à lui, continue d'appeler au rassemblement et à la désobéissance civile. Le studio de son leader, le rappeur Smokey, a été attaqué hier par des éléments du RSP. Nous l'écoutons.
Actuellement, ce sont des guérillas de quartier. Les jeunes s'organisent pour essayer de mettre des barrages dans les rues et puis essayer d'utiliser la même méthode qu'on a utilisée le 30 et 31 octobre. Essayer de disperser les forces des éléments du RSP, hein, puisque on va rappeler que ce n'est pas a priori tout le RSP qui est concerné, mais une partie. Ils ont utilisé des balles, malheureusement assassines. Les éléments sont tombés, probablement plus d'une dizaine de gens, et puis il y a beaucoup de blessés. Face à des gens qui sont armés jusqu'aux dents et qui vont plus loin parce qu'ils n'interviennent pas uniquement sur les axes classiques de déploiement de forces, mais ils vont jusque dans les quartiers, jusque dans les maisons des gens. Ils incendient même les domiciles des gens. Ils visent spécifiquement les meneurs de cette résistance-là et je vous assure qu'ils ont décidé d'en finir avec les éléments du balai citoyen. Il y a des chasses-poursuites et moi-même j'en ai été victime à mon propre domicile et mon bureau. J'ai dû mettre ma famille à l'abri. Bon, on est dans une situation véritablement délicate où on appelle le peuple burkinabé dans son entièreté, dans un sursaut patriotique à maintenir cette résistance-là et aussi toutes les forces républicaines de l'armée burkinabé de se mettre du côté du peuple pour qu'ensemble on puisse vaincre ce monstre qui est en train de se mettre en place et qui va nous faire repartir 40 ans en arrière.
Et est-ce que vous restez ouvert au dialogue avec les militaires ?
C'est impossible de dialoguer avec des putschistes. Pour qu'il y ait dialogue, il faudrait que d'abord ces putschistes-là acceptent de revenir sur le droit chemin et à laisser les institutions légitimes reprendre leur cours.
Le rappeur Smokey est l'un des porte-parole du mouvement Balai Citoyen.
Les syndicats se mobilisent également contre le coup de force. Ils ont lancé un mot d'ordre de grève générale illimitée. Timothée de Longmaille a joint à Ouagadougou le secrétaire général de la Confédération générale du travail au Burkina, Bassolma Bazier.
Et permettez-moi de saluer la mobilisation du peuple burkinabé. Le mouvement est largement suivi. En ce sens que le mouvement syndical prend toujours des positions responsables. Le rôle d'une armée républicaine, c'est la sécurisation des frontières. Et nous avons même exigé en son temps la dissolution du régime de sécurité présidentielle parce que dans une république, il n'appartient pas à l'armée d'assurer la garde présidentielle. C'est le rôle de la gendarmerie et de la police. Et si nous estimons que l'armée ne veut pas se conformer à un état démocratique, il nous appartient de faire face à notre rôle historique qui est de défendre la démocratie, de défendre les intérêts du peuple burkinabé. Quand une institution, l'armée, et surtout même pas toute l'armée, une partie de l'armée estime qu'elle ne peut pas jouer un autre rôle que de garder le président, éventuellement téléguidé par des têtes politiques cachées dans l'ombre.
Jusqu'où ira votre grève générale ?
Comme nous l'avons dit, nous avons lancé une grève générale illimitée. La lutte ne se limite pas à Ouagadougou. Des échos des provinces de toutes les 13 régions, il nous revient que dans tous les départements, les provinces, les 45 provinces, les travailleurs sont mobilisés et ils ne sont pas prêts à se laisser faire et c'est tout à fait normal.
Bassolma Bazier de la Confédération générale du travail au Burkina.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste de l'actualité, un demi-million d'enfants supplémentaires ont fui les attaques des islamistes de Boko Haram au Nigeria, Niger, Cameroun et Tchad au cours des 5 derniers mois, selon l'UNICEF. Ces derniers chiffres portent environ 1,4 million le nombre d'enfants qui ont été chassés de chez eux dans la région du lac Tchad, ajoute le Fonds de l'ONU pour l'enfance dans un communiqué publié aujourd'hui.
Le Chili est sous le choc après le puissant séisme qui a déclenché l'évacuation d'un million de personnes et fait au moins 12 morts. Ce tremblement de terre d'une magnitude de 8,3, le plus fort à l'échelle mondiale pour 2015, a frappé le centre du pays non loin des côtes, provoquant des évacuations massives avant l'arrivée d'un raz-de-marée avec des vagues de presque 5 mètres sur le littoral du Pacifique.
Les violents incendies en Californie ont fait deux nouvelles victimes, portant le bilan à 5 décès en quelques jours. Tandis que plus de 17 000 personnes ont fui les flammes. 8 grands feux brûlent actuellement en Californie, d'après Lynette Round, porte-parole de Call Fire, l'agence californienne d'information sur les incendies. Parmi eux, on compte 2 méga-feux, ceux de Butte et de Valley, respectivement à l'est et au nord de San Francisco.
Enfin, une nouvelle secousse à la FIFA qui ébranle son sommet. Le numéro 2, le français Jérôme Valque, bras droit du président démissionnaire Joseph Blatter, a été suspendu hier après avoir été accusé d'être impliqué dans un système de revente massive de billets au marché noir. La Fédération internationale a indiqué dans un communiqué avoir pris connaissance d'une série d'allégations impliquant le secrétaire général et a demandé qu'une enquête officielle soit menée par la commission d'éthique. Jérôme Valque a nié vigoureusement ces accusations.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours bien branché sur la VOA émettant de Washington. Jacques Aristide avec vous. Nous abordons la seconde partie du monde aujourd'hui. En République démocratique du Congo, la haute cour militaire a allégé en appel le verdict rendu en première instance contre deux policiers condamnés à mort et à perpétuité pour l'assassinat du défenseur des droits de l'homme, Floribert Chebeya, et de son chauffeur, Fidel Bazana, en juin 2010 à Kinshasa. Le colonel Daniel Mukalai, condamné à mort en 2011, a écopé de 15 ans de réclusion criminelle, alors que le capitaine Michel Mouila, qui avait été condamné à la perpétuité en première instance, a été acquitté. Les partis civils ont immédiatement dénoncé une banalisation du crime d'État et annoncé leur intention de se pourvoir en cassation. Reportage de Cyril Milandou de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
L'arrêt de la haute cour militaire n'arrange pas la défense du colonel Daniel Mukalai, maître Bokata Ikundaka.
On ne nous a rencontrés sur aucun élément. C'est comme si nous avions été totalement absents. Mais le fait que nous descendions de la peine de mort à 15 ans me laisse encore quelque espoir. J'attendais à l'acquittement pur et simple par rapport aux éléments que nous avions abordés. La cour a dit deux choses importantes. Elle n'est pas obligée de rencontrer les moyens des prévenus et le mobile est inopérant. Ce qui veut dire que les moyens tels que nous les avions exposés, la cour ne se sentait pas dans l'obligation de les rencontrer.
Pour les partis civils, la haute cour militaire, en reconnaissant que Fidel Bazana, porté disparu, a été assassiné, tout en condamnant Daniel Mukalai à 15 ans, a commis une erreur de droit. Maître Richard Bondo.
Les circonstances atténuantes dont l'arrêt fait état n'ont pas été développées dans la motivation. Et surtout que les articles 44 et 45 du code pénal qui parlent de l'assassinat, lorsqu'il y a assassinat, c'est-à-dire le meurtre simple est déjà aggravé, le juge n'a aucun droit de décréter des circonstances atténuantes là où la loi a déjà aggravé l'infraction. Et c'est ainsi que nous disons qu'il s'agit d'une erreur de droit qui nous contraint à nous pourvoir en cassation.
La voix des sans voix fonde son espoir sur la justice internationale. Son directeur exécutif promet que le moment venu, une plainte sera déposée contre l'État congolais. Dolly Ibefo.
La VSV a participé au procès qui a été ouvert par l'État congolais. Et c'est comme ça que la VSV s'est fait partie civile. Deuxième espoir, c'est Dakar où il y a une justice indépendante. Cette justice avec des personnalités, des juges compétents, doués d'une intelligence et qui ne peuvent pas prostituer leur science. Donc notre espoir, c'est Dakar. Notre espoir, c'est la VSV n'a jamais porté plainte. Le moment venu pour apporter plainte contre l'État congolais qui a tué deux de ses membres.
Quatre policiers ont été acquittés et renvoyés de toute poursuite. De Kinshasa, Cyril Milandou de Top Congo FM pour la VOA Afrique.
Cap maintenant sur la Guinée-Bissau qui a un nouveau Premier ministre depuis hier. La nomination de Carlos Correa par le président José Mario Vaz est censée sortir le pays de la crise politique provoquée par la destitution en août dernier du chef du gouvernement Domingos Simoes Pereira, leader du parti majoritaire PAIGC. Le Premier ministre Correa appartient au même parti. La cérémonie d'investiture a eu lieu hier à Bissau, la capitale, d'où nous nous retrouvons notre correspondant Noua Mankali.
À cette occasion, le président de la République, José Mario Vaz, a demandé au nouveau Premier ministre de faire face aux graves problèmes sociaux que connaît la Guinée-Bissau, notamment dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Dans un bref discours, le nouveau Premier ministre, Carlos Correa, a appelé à la collaboration de tous pour résoudre les problèmes qui affligent la Guinée-Bissau. Cette nomination intervient à un moment particulièrement difficile pour notre pays, a souligné Carlos Correa. Dans l'exercice des fonctions que je viens d'être investi, Je ferai de mon action le respect fidèle de la Constitution et les lois. Et je vais tout faire pour qu'il y ait une relation institutionnelle saine. Et la force, que je ne doute pas, contribuera de manière décisive à un climat de paix et de stabilité, si nécessaire pour le développement du pays, a déclaré Carlos Correa. Correa a dirigé aussi son appel à tous les acteurs politiques nationaux, la société civile, la communauté internationale à soutenir ce gouvernement. Carlos Correa, militant du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert PAGC, est considéré comme l'un des politiciens les plus sérieux du pays, ce qui fait qu'il a soumis cette fonction à 3 reprises et celle-ci en est la 4e fois. La Guinée-Bissau, l'un des pays les plus pauvres dans le monde, est resté 36 jours sans gouvernement depuis la destitution le 12 août dernier du gouvernement de Domingos Simões Pereira. La nomination de Carlos Correa est survenue à un moment où une mission spéciale de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, dirigée par l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo dans le pays. La situation est en train d'évoluer positivement, a conclu M. Obasanjo en déclaration à la presse jeudi. Nouaman Kalibissau, VOA Afrique.
État de terreur, arrestations arbitraires, tortures et meurtres. C'est le titre du premier rapport de Human Rights Watch sur la Gambie. L'ONG parle de 2 décennies de peur et de répression qui continuent de prévaloir dans ce petit pays. Elle accuse le gouvernement gambien de commettre de graves violations des droits humains à l'encontre de personnes considérées comme des détracteurs et des opposants politiques. Idrissa Seloudia s'est entretenue avec la chercheure Felicity Thompson.
Le gouvernement gambien commet les abus de droits de l'homme graves contre toute personne qui critique le gouvernement, c'est-à-dire les journalistes, les membres de l'opposition, défenseurs des droits de l'homme. Nous avons documenté plusieurs abus, parmi eux les exécutions extrajudiciaires, les disparitions forcées, la torture est prévalente, et aussi les arrestations arbitraires, les détentions illégales.
Vous parlez du régime ou du gouvernement du président Yahya Jammeh. Comment réagit-il à toutes ces accusations?
Bon, ça fait 2 décennies que les activistes gambiennes et aussi les organisations de droits de l'homme internationales ont documenté les violations graves en Gambie. Et ils ont impliqué les forces de l'ordre. Nous avons parlé avec les victimes et les témoins de ces abus qui ont impliqué les forces de l'ordre, y compris l'Agence nationale de renseignement et aussi des groupes paramilitaires. Un groupe qui s'appelle les Junglers est impliqué dans des crimes très graves.
Mais quand vous faites ce genre de rapport, vous le publiez, etc., quelle est la suite?
Ce que nous espérons avec ce rapport, c'est que le monde ne peut plus ignorer ce qui se passe en Gambie. On ne peut plus dire qu'on ne sait pas ce qui se passe en Gambie. Il faut agir.
Le monde est conscient, rien n'a été fait. Et je crois que la situation a été aggravée aussi par la récente tentative de le renverser par des gens venus de l'extérieur.
Oui, on a vu que la situation est devenue plus grave depuis l'attentat de coup d'État en décembre. On a constaté que des dizaines de personnes ont été détenues illégalement et même disparues par les agences du gouvernement. Nous avons vu qu'il faut attirer l'attention du monde sur ce qui se passe en Gambie pour que les gouvernements concernés puissent mettre pression sur le gouvernement du président Jammeh.
Felicity Thompson de l'ONG Human Rights Watch. Direction Cameroun, où de longues files d'attente se forment pratiquement chaque jour dans les commissariats du pays chargés de délivrer la carte nationale d'identité. La carte fait partie du renforcement des mesures de sécurité dans le cadre de la lutte contre les islamistes nigérians de Boko Haram. À Douala, le reportage de notre correspondante Idé Sandrine Nyamga.
Nous sommes dans un commissariat de la ville de Douala, capitale économique du Cameroun. Les bousculades sont au rendez-vous. Hommes, femmes et jeunes font la queue devant le poste de police. À l'intérieur, les agents sont débordés, des piles de cartons sont entassées devant eux. L'affluence est bien là et il est question pour ce beau monde de se faire établir une carte nationale d'identité. D'ailleurs, il faut se lever de bonne heure pour espérer être reçu, comme en témoignent ceux qui en ont fait l'expérience.
C'est depuis 4 heures que je suis ici là. Depuis 4 heures, j'étais même là dehors. Pour entrer, c'est les problèmes.
Penser à être reçu, il faudra être sorti très tôt, aux environs de 2 heures, 3 heures, pour être enregistré dans les listes qui vont commencer. Les enregistrements commencent à partir de 5 heures.
Depuis 6 heures, nous sommes voulu gagner la première place. Non. Mais on est arrivé, il y avait déjà les gens.
Depuis que les mesures de sécurité ont été renforcées du fait des attaques et attentats meurtriers qui ont fait des victimes dans la partie septentrionale du Cameroun, il faut désormais présenter sa pièce d'identité. C'est que des contrôles se sont intensifiés d'un bout à l'autre. Des fouilles systématiques ont lieu dans les agences de voyage et autres structures publiques ou privées. Ainsi, pour partir d'une localité à une autre, les usagers doivent montrer patte blanche.
J'étais malade et je n'étais pas ici pour le faire. J'étais dans un village pour me traiter. Comme c'est déjà chaud, il faut battre le fer. Voilà pourquoi je suis venu ce matin pour le faire.
Une situation due au contexte sécuritaire actuel au Cameroun. Et plusieurs citoyens en ont bonne conscience.
Avec tous les rafles qu'il y a de par-ci, par-là, on ne voudrait pas courir des risques pour pouvoir être incarcéré demain. Là, c'est aussi une des raisons pour laquelle je suis là pour la carte nationale.
Ces dernières semaines, les commissariats de sécurité publique sont pris d'assaut au point où les cartes nationales d'identité produites des années antérieures sont retirées par leurs propriétaires quand elles ne sont plus hors d'usage, comme l'affirme sous anonymat un agent de police.
C'est des cartes de 2004. Bon, on a en 2004, on avait déjà remis à la direction parce que c'était payé.
Et c'est aussi le moment pour la sensibilisation sur l'importance de ce document. Simon Aka est commissaire de police.
La carte nationale d'identité, c'est la pièce maîtresse. À partir de 18-20 ans, il faut que le citoyen camerounais et sa pièce d'identité pour un déplacement, pour sa sécurité d'abord personnelle.
Dans plusieurs villes du Cameroun, ce sont environ 50 à 100 personnes qui font le pied de grue chaque jour avec pour objectif de rentrer en possession d'une carte nationale d'identité.
Idée Sandrine Nyamga, correspondante de VOA Afrique à Douala.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Mission commerciale américaine de haut niveau en Afrique. Celle-ci se rendra dans les 8 plus grandes économies du continent. Les détails avec Lionel Gaïma.
La délégation comprend 154 représentants de 108 entreprises américaines. Elle effectuera des arrêts en Angola, en Éthiopie, au Ghana, au Kenya, au Mozambique, de même qu'au Nigeria, en Tanzanie et en Afrique du Sud. Son séjour s'inscrit dans le cadre de l'initiative TradeWinds qui vise à présenter aux entreprises américaines les opportunités d'investissement en Afrique subsaharienne. Marcus Jadot, secrétaire d'État adjoint américain au commerce chargé de l'industrie et de l'analyse, dirige la mission commerciale américaine sillonnant actuellement l'Afrique.
Our interest in Africa is long term.
Notre intérêt pour l'Afrique est à long terme. Nos entreprises montrent la voie en matière de technologie. Nous nous concentrons sur le développement de la main-d'œuvre locale en soutenant le développement des infrastructures et en investissant dans les communautés dans lesquelles nous opérons. Le président américain Barack Obama a fait du renforcement des liens commerciaux avec le continent une priorité. Cependant, étant donné l'emprise des entreprises chinoises sur de nombreux pays africains, un expert commercial estime qu'il faudra plus d'un voyage aux entreprises américaines pour parvenir à décrocher des possibilités lucratives d'investissement. Theo Josias dirige le service de développement des affaires à Suisse. Zin Saluba Gobodo, un cabinet sud-africain de conseil en investissement. Selon lui, les entreprises américaines doivent identifier les secteurs ayant le plus besoin d'investissement, l'énergie et les infrastructures, par exemple. Les conditions financières désastreuses en Afrique présentent une énorme opportunité pour les investisseurs. Les gouvernements donnent beaucoup en termes de mesures incitatives et font beaucoup pour attirer les investisseurs. Dans ce contexte, estime Josias, les entreprises américaines peuvent capitaliser sur les faiblesses de leurs concurrentes étrangères, des gens bien implantés en Afrique. Les entreprises américaines sont déjà visibles dans de nombreux pays africains. Elles sont près de 600 en Afrique du Sud, où ils emploient des centaines de milliers d'habitants. Ces chiffres sont le fruit d'audacieuses mesures, souligne le secrétaire d'État adjoint américain au commerce chargé de l'industrie et de l'analyse. Un exemple, le département du commerce des États-Unis a doublé sa présence en Afrique et s'apprête à ouvrir un bureau en Côte d'Ivoire.
Et voilà, point final à ce numéro du Monde aujourd'hui. Anne Albertson était à la réalisation. Yubirel Tayeb était notre ingénieur. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie, chers amis fidèles de la VOA, pour votre attention. Nous vous souhaitons une très bonne journée de vendredi ainsi qu'un excellent week-end. C'était Jacques Aristide dans la capitale américaine. À très bientôt. Take care.